VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. 6 femmes et 9 enfants échappent à leur ravisseur au Nigeria. Migrants tués en Libye, le HCR dénonce ce qu'il qualifie d'événement horrible. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'état-major a été chargé de réorganiser les forces de défense et de sécurité pour plus d'efficacité. Ici aux États-Unis, la bataille judiciaire sur l'avortement se poursuit au Texas. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Nigeria, 6 femmes et 9 enfants enlevés par des djihadistes à leur communauté chrétienne du nord-est ont échappé à leurs ravisseurs. Les 15 personnes ont marché 6 jours à travers la forêt vers la liberté. Jacques Aristide.
Les femmes et les enfants ont été capturés il y a plusieurs mois, d'après Zouaïra Gambo, commissaire aux droits de femmes de l'État de Borno. 3 femmes et leurs 5 enfants ont été kidnappés en octobre de l'année dernière dans le village de Takulashi à Chibok, tandis que les 3 autres femmes et leurs 4 enfants ont été enlevés en mai dernier dans le village de Koufré à Ong, de l'État voisin d'Adamawa. En 2014, quelques 300 collégiennes de Chibok avaient été kidnappées par Boko Haram. Les 15 personnes, dont une femme enceinte de 8 mois, originaire de Koufré, ont marché de la forêt de Bouniyadi, située dans l'état de Yobe proche, jusqu'à la ville de Damboa dans le Borno, soit une distance d'environ 90 km. Ils ont fait preuve de ténacité à marcher dans le bush pendant 6 jours, a déclaré la commissaire Gambo en présentant les femmes et les enfants au gouverneur du Borno, Babagana Zulum, et à des dignitaires chrétiens. La forêt de Bouniyadi est connue pour abriter les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. L'ISWAP et Boko Haram enlèvent souvent des femmes.
Dans l'extrême nord du Mali, la force française Barkhane a débuté ce matin la phase finale du transfert de la base de Kidal vers la MINUSMA et l'armée malienne, a indiqué l'état-major français. La France réorganise son dispositif militaire au Sahel et veut réduire ses effectifs dans la région à 2500-3000 hommes d'ici 2023, contre plus de 5000 aujourd'hui. Les militaires français quittent leurs bases les plus au nord, celles de Kidal, Tombouctou et Tessalit. D'autre part, le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, condamné en 2016 à 9 ans de prison par la CPI pour avoir détruit des mausolées à Tombouctou, a demandé à être relâché. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'état-major de l'armée burkinabé, le général Gilbert Ouédraogo, a été chargé de réorganiser les forces de défense et de sécurité pour plus d'efficacité dans la guerre contre les djihadistes. Le général Ouédraogo a succédé au général Moïse Miningou le 6 octobre, 2 jours après une attaque d'envergure contre le détachement de Yirgou dans le nord. 14 militaires ont été tués, 7 blessés lors de cette attaque. Toujours au Burkina Faso, procès de l'assassinat de Thomas Sankara, la demande d'enregistrement des débats a été rejetée hier. Les avocats de la partie civile avaient fait valoir de l'importance de ces débats pour l'histoire du pays. Le journaliste congolais Sosthène Kambidi, arrêté le 20 septembre dans le cadre d'une enquête sur le meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 en République démocratique du Congo, a été libéré. Une ordonnance de mise en liberté provisoire a été signée par le parquet militaire et lui a été remise à l'issue d'une audience publique qui s'est tenue à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a dénoncé lundi une série d'événements horribles en Libye qui ont fait au moins une demi-douzaine de morts parmi les migrants ou demandeurs d'asile tués par les forces de sécurité. Les précisions de John Lyndon.
Nous sommes extrêmement inquiets des souffrances que continuent d'endurer les migrants et demandeurs d'asile en Libye qui sont soumis quotidiennement à une myriade d'atteintes à leurs droits et d'abus par les acteurs étatiques et non étatiques, a dénoncé Martha Hurtado, porte-parole du Haut Commissariat à Genève. Elle a relevé plusieurs incidents à l'ouest de Tripoli entre le 1er et le 8 octobre qui ont fait, selon un bilan provisoire, au moins une demi-douzaine de morts. Un raid des personnes personnels du ministère de l'Intérieur contre un campement de fortune a aussi fait au moins 5 blessés et quelques 4000 personnes ont été arrêtées. Elles ont ensuite été rassemblées dans des cellules extrêmement surpeuplées avec peu d'accès à de la nourriture ou de l'eau au centre de détention de Al-Mabani. De nombreux migrants, majoritairement issus d'Afrique subsaharienne, transitent chaque année par la Libye pour tenter de regagner l'Europe par les côtes italiennes.
La Cour internationale de justice a accordé ce mardi à la Somalie la majeure partie d'une zone maritime de l'océan Indien, riche en poissons et en potentiels hydrocarbures, revendiquée par le Kenya. Ce différend envenime depuis des années les relations des deux voisins de la Corne de l'Afrique. Le point avec Nanit Talani.
Cette cour, plus haute juridiction de l'ONU, a statué qu'il n'y avait pas de frontière maritime convenue et a tracé une nouvelle frontière proche de celle revendiquée par la Somalie. Le Kenya conserve une partie du triangle d'eau contesté entre les deux pays qui s'étend sur plus de 100 000 km². La cour met fin à la procédure initiée en 2014 par Mogadiscio et qui envenime les relations déjà tumultueuses entre les deux voisins. En amont, le Kenya avait accusé la juridiction de partialité et d'ores et déjà fait savoir qu'il ne reconnaissait pas la compétence de la cour créée en 1946 pour régler les différends entre États membres. Le Kenya réclame la souveraineté dans cette partie de l'océan Indien depuis 1979, lorsque le pays a proclamé les limites de sa zone économique exclusive. Il a déjà accordé 3 permis d'exploration pétrolière italienne, mais qui sont contestés par la Somalie. Le Kenya rejette la compétence de la Cour, dont les décisions sont sans appel, mais la Cour ne dispose pas de moyens contraignants pour les faire appliquer.
Après cette décision, le président de la Somalie, Farmajo, a demandé au Kenya de respecter le droit international et que le pays abandonne son ambition, selon ses mots. Dans un autre volet diplomatique, le président kényan Uhuru Kenyatta sera reçu ce jeudi par son homologue américain Joe Biden. C'est la première visite d'un chef d'État africain depuis le début de la présidence Biden. Les deux dirigeants aborderont la solide relation bilatérale entre les deux pays, ainsi que le besoin de transparence et de responsabilité dans les systèmes financiers nationaux et internationaux, selon le communiqué de la Maison-Blanche. L'Afrique du Sud s'est lancée dans la conception d'un premier vaccin africain à ARN messager pour mettre fin à la dépendance du continent vis-à-vis des pays riches. Le pays milite pour un accès équitable au vaccin anti-Covid. Soutenu par l'OMS, ce projet pilote est mené par Afrigen, entreprise sud-africaine de biotechnologie basée au Cap. Les premières doses devraient être prêtes pour des essais cliniques d'ici un an.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La bataille judiciaire sur l'avortement se poursuit au Texas. Une cour d'appel fédérale a permis à cet État conservateur de rétablir une loi interdisant l'avortement après 6 semaines de grossesse. L'administration Biden a jusqu'à ce soir pour faire appel. Abdourahman Dia.
Depuis ce week-end, les cliniques proposant des avortements au Texas sont engagées dans une course contre la montre après le rétablissement d'une loi qui rend la majorité des interruptions volontaires de grossesse de nouveau illégales dans cet État américain. La loi ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. L'organisation de planning familial Planned Parenthood a immédiatement annoncé qu'elle suspendait à nouveau les avortements à plus de 6 semaines, dénonçant une décision de justice qui, je cite, ignore encore une fois un demi-siècle de précédent protégeant le droit constitutionnel à l'avortement. Les opposants à l'avortement ont applaudi la décision. Notre prière a été exaucée, a salué Kimberly Schwartz du groupe Texas Right to Life dans un communiqué. La loi baptisée Texas Heartbeat Act est entrée en vigueur le 1er septembre. Elle a été bloquée temporairement par un juge fédéral du Texas à la suite d'une plainte du gouvernement de Joe Biden. Cette loi votée au Texas devrait de nouveau se retrouver à la Cour suprême. La plus haute juridiction américaine avait garanti en 1973 le droit à l'avortement. Cette bataille judiciaire très passionnée divise depuis plusieurs années la classe politique et la société américaine.
Toujours aux États-Unis, la Chambre des représentants doit voter aujourd'hui en faveur du relèvement du plafond de la dette jusqu'en décembre. Grâce à la majorité démocrate à la Chambre basse, ce texte devrait être approuvé aujourd'hui. La porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que ce texte serait signé immédiatement par le président Biden. Les talibans afghans ont eu leurs premiers entretiens avec une délégation conjointe des États-Unis et de l'Union européenne aujourd'hui au Qatar. Ces islamistes radicaux poursuivent leurs efforts diplomatiques pour obtenir un soutien international après leur arrivée au pouvoir à Kaboul en août et depuis confrontés à la paralysie de l'économie et l'imminence d'une grave crise humanitaire. Bruxelles s'est engagée à fournir une aide humanitaire d'1 milliard d'euros à l'Afghanistan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
La RDC bénéficie d'une mise à disposition immédiate d'$1 milliard et de 30 véhicules militaires blindés de la part des Émirats Arabes Unis. Cet appui, selon Financial Africa, a été obtenu au terme des échanges entre le prince héritier d'Abu Dhabi et le président Félix Tshisekedi, échange qui portait sur les opportunités d'investissement en RDC dans les domaines comme les infrastructures, la sécurité, l'énergie, la défense, la santé et les mines. Le conseil d'administration du FMI a annoncé lundi soir qu'il renouvelle sa confiance en Kristalina Georgieva au poste de directrice générale. Malgré les accusations de manipulation en faveur de la Chine, des données du rapport Doing Business lorsqu'elle était directrice générale de la Banque mondiale. D'après le FMI, l'enquête menée n'a pas permis de conclure à un rôle inapproprié de l'économiste bulgare de 68 ans qui a toujours nié les faits. Elle s'est félicitée de cette décision. La compagnie américaine Southwest, qui avait dans un premier temps imputé plus de 2000 annulations de vols à la météo et à des problèmes de contrôle aérien, a reconnu lundi que la situation a été aggravée par des effectifs limités. Comme d'autres compagnies aériennes américaines, Southwest a laissé partir de nombreux employés au début de la pandémie, mais fait face depuis le printemps à un regain d'activité et s'empresse de recruter.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Suite et fin aujourd'hui des matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en Afrique. Le Sénégal est le premier qualifié pour les barrages de la Coupe du Monde 2022, en Afrique en tout cas. Les Lions de la Teranga se sont imposés 3-1 devant la Namibie, leur quatrième victoire consécutive dans ces éliminatoires. Ils sont donc sûrs de finir premier de leur groupe H et donc de voir le dernier tour de ces matchs qualificatifs pour Qatar 2022. Les Lions marocains de l'Atlas seront eux aussi qualifiés pour les barrages en cas de victoire ce soir face à la Guinée. L'Afrique du Sud s'est imposée devant l'Éthiopie et reprend donc la tête du groupe D devant le Ghana, vainqueur 1-0 du Zimbabwe. Le Niger est tombé à domicile devant l'Algérie 4-0. Le Togo a battu le Congo 2-1. L'Allemagne est la première équipe à décrocher son billet pour ce Mondial 2022 au Qatar via les qualifications en s'imposant 4-0 en Macédoine du Nord avec 8 points d'avance sur la Roumanie. Les quadruples champions du monde ne peuvent plus être rejoints. En Égypte, environ 2000 supporters, 1000 pour chaque club, pourront assister au match du championnat national de football qui débute fin octobre. Les stades étaient restés fermés depuis le début de la pandémie de coronavirus le 25 octobre. Le colosse Al Ahly affrontera Ismaili Sporting Club, tandis que le Zamalek FC, tenant du titre, s'opposera à l'INPPI Sporting Club. Le derby du Caire, Al Ahly contre Zamalek, n'aura lui lieu qu'à la troisième phase du championnat. 18 clubs se disputeront le titre de champion d'Égypte durant cette saison. Basketball, le meneur des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, ne sera pas autorisé à jouer ni même à s'entraîner tant qu'il ne sera pas vacciné contre le Covid. C'est ce qu'a annoncé la direction de la franchise de NBA. Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, New York a mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire qui n'autorisent pas les adultes non vaccinés à prendre part aux entraînements ni aux matchs. À une semaine du début de la saison NBA qui s'ouvre par un choc entre les Milwaukee Bucks, champions en titre, et les Nets, le meneur de 29 ans ne pourrait donc pas disputer les matchs à domicile, soit 41 rencontres de saison régulière, auxquelles il faudra ajouter celles d'éventuels play-offs.
Merci à toi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibour avec vous. Place au dossier du jour. Amnesty International exhorte la junte au pouvoir au Tchad à arrêter la campagne d'intimidation contre les voix dissidentes et à protéger la liberté d'expression. L'organisation dénonce aussi le ralentissement d'Internet et l'usage de la violence durant les rassemblements. Cet appel intervient 2 jours après des manifestations dispersées par la police à coups de gaz lacrymogène. Ces rencontres ont été organisées samedi par Wakit Tama, une plateforme de partis d'opposition et de membres de la société civile à N'Djamena. Nanit Talania joint à Dakar, au Sénégal, Abdoulaye Diarra, chercheur Afrique centrale à Amnesty International.
Nous surveillons un certain nombre de droits spécifiques, notamment la liberté d'expression, la liberté de l'assemblée, de se rassembler pacifiquement et la liberté de manifester pacifiquement. Donc c'est un pays sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Et nous avons notamment, depuis le début de l'année, surveillé toutes les manifestations qui s'est déroulées au Tchad. Et lorsque malheureusement il s'est arrivé que les droits à la liberté d'expression et les droits de manifester étaient restreints, nous ayons décidé de faire du plaidoyer pour que ces droits soient respectés. Entre avril et mais il y avait eu un certain nombre de manifestations qui avaient été organisées par la plateforme. Les manifestations avaient été interdites et on avait dénombré 10 de personnes qui avaient été tuées lors de ces manifestations. Et à partir de mai, les manifestations ont commencé à être autorisées et l'opposition a pu manifester dans le pays. Cependant, début octobre, les violences ont repris. Donc c'est pour cela que nous appelons les autorités à continuer à garantir le droit de manifester pour toutes les parties, y compris l'opposition.
Pensez-vous que cet appel sera suivi ?
Il y a une transition qui est en place au Tchad et les institutions sont en train de se mettre en place. Les autorités doivent entendre le message de l'opposition et qui est de respecter leurs droits fondamentaux. Et donc les autorités dans la transition doivent s'inscrire justement dans le respect des textes fondamentaux. Donc nous faisons quand même ce plaidoyer-là. Et nous avons des discussions et nous espérons que les autorités respecteront les libertés de manifestation et d'expression.
Vous faites aussi mention de l'usage excessif de la force. Est-ce que ce n'était pas en lien avec des manifestations qui avaient été interdites par le gouvernement?
Il y avait la marche du 2 octobre qui avait été autorisée. Cependant, les violences ont émaillé cette marche. Et c'est pour cela que les autorités ont décidé d'interdire la marche du 9 octobre. Cependant, même lorsque les marches ne sont pas autorisées, il y a un cadre qui est là pour encadrer l'usage de la force. Et nous estimons qu'au regard des vidéos, des témoignages que nous avons pu avoir, que la police a fait usage de manière disproportionnée de la force. Les techniques qui ont été utilisées n'étaient pas nécessaires et donc il y a eu un usage excessif de la force pour faire interdire cette manifestation.
Mais au cas où cela ne se passait pas comme vous le souhaitez, de quel autre moyen disposez-vous pour aider l'opposition tchadienne, mais aussi la population tchadienne à avoir ses droits garantis et respectés?
Nous faisons du plaidoyer non seulement auprès des autorités tchadiennes, mais également auprès de l'ensemble des partenaires du Tchad. Je crois également avoir vu que les partenaires internationaux du Tchad avaient émis un communiqué justement sur la possibilité pour les manifestants de jouir librement de leurs droits. Et nous pensons que ces plaidoyers qui sont faits à l'endroit du pouvoir seront positifs et déboucheront sur le respect de ces libertés fondamentales.
Abdoulaye Diarra, chercheur Afrique centrale à Amnesty International.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au moins 3600 militants de Boko Haram ont déposé les armes depuis le mois d'août. C'est ce qu'a fait savoir dimanche à Yaoundé le commandant de la force multinationale luttant contre ce groupe extrémiste. Le correspondant de la VOA à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, fait le point. Récit Lionel Gaïma.
En visite dans la capitale camerounaise, le général nigérian Abdul Khalifa Ibrahim a assuré que le nombre de militants quittant les rangs de Boko Haram s'accroît de jour en jour.
Je peux vous dire avec autorité que depuis le début du mois d'août, environ 3000 membres de Boko Haram se sont rendus. Ceci uniquement à la force multinationale mixte au Cameroun et au Nigeria.
Le général Ibrahim précise que 6000 autres militants du groupe se sont rendus à la force multinationale ces 2 derniers mois. Des milliers de défections ont été signalées en mai lorsque les affrontements ont éclaté entre les factions du groupe extrémiste nigérian suite à la mort de son chef Abubakar Shekau. La force multinationale, dont le siège est N'Djamena, se compose de plus de 10 000 soldats originaires du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria. Elle n'a cessé de mener des raids contre Boko Haram dans la forêt de Sambisa, ainsi que sur le pourtour du lac Tchad, semant la confusion dans les rangs des extrémistes. Ces derniers n'ont pas encore réagi comme ils le font habituellement sur les réseaux sociaux. Le général Ibrahim a pris part à Yaoundé à une réunion des responsables de la commission du bassin du lac Tchad, organisation regroupant le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Le consensus lors de cette réunion est que l'affaiblissement de Boko Haram a permis à des milliers de réfugiés et des déplacés de retourner chez eux. Mijiyawa Bakari, gouverneur de la province camerounaise de l'extrême nord, affirme que les réfugiés nigérians désireux de regagner leur pays ont reçu une assistance.
We have already accompanied more than 5,000 Nigerians.
Nous avons déjà accompagné plus de 5000 Nigérians qui sont retournés dans l'état de Borno et le chef de l'état a fourni à chaque réfugié un kit pour lui permettre de reprendre sa vie une fois réinstallé dans son pays.
En septembre, plus de 1200 anciens militants de Boko Haram qui avaient quitté le groupe pour le Tchad et le Cameroun ont regagné le Nigeria. Mahamad Fadoul Makai dirige la région tchadienne du lac Tchad.
Le développement est parti en régression. Mais maintenant, je crois qu'avec le soutien des différents bailleurs, les partenaires qui nous accompagnent, il y a un déclenchement pour le développement, un échec cuisant. Et c'est maintenant qu'ils ont changé de stratégie. Ils se sont répartis en petits groupes où ils s'en prennent à la population civile. Mais ils n'ont jamais eu l'audace d'attaquer les forces régulières.
Toutefois, les militants continuent d'attaquer les villages pour se procurer de vivres, a fait savoir le gouverneur Makai. Les défections djihadistes ne signifient pas pour autant la fin de la menace. Les pays du bassin du lac Tchad font état d'une infiltration dans les zones frontalières entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, faction dissidente de Boko Haram. Selon les autorités camerounaises, le groupe tente de persuader les civils, en particulier les jeunes, à rejoindre ses rangs.
À l'occasion de la 17e conférence africaine sur le journalisme d'investigation qui s'ouvre à Dakar, l'organisation PEN America lance la version française de son manuel à l'intention des journalistes pour se protéger contre le cyberharcèlement qui vise principalement les femmes exerçant dans les médias. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Longtemps considéré comme une menace moins violente que les menaces physiques, le cyberharcèlement est bel et bien reconnu comme élément dévastateur sur le quotidien, la santé mentale, la liberté d'expression et les liens avec les violences en ligne. Le manuel recommande des stratégies d'autodéfense et de réponse contre le piratage, l'usurpation d'identité ou le doxing, c'est-à-dire la diffusion publique d'informations personnelles ou sensibles. Angela Peja, journaliste, victime de cyberharcèlement.
Donc psychologiquement, c'était plutôt un poison. Donc tout le temps, ma tête tournait, je n'arrivais plus à dormir. C'était du stress. J'ai perdu du poids. Comment je peux vous expliquer ça? C'était énorme, dur.
Selon PEN America, le manuel est destiné aux journalistes et écrivains des pays francophones, mais également pour toutes les personnes qui font face à de l'hostilité en ligne, en particulier les femmes et les personnes qui s'identifient comme faisant partie d'un groupe marginalisé. Dans un rapport publié en mai 2020, l'UNESCO indiquait qu'à travers le monde, 73% des femmes journalistes ont été victimes de cyberharcèlement. Élodie Vial, consultante à PEN America.
Donc aujourd'hui, au niveau international, vous avez une enquête récente globale de l'UNESCO qui montre que 73% des femmes journalistes aujourd'hui ont déjà dans le monde été visées par du cyberharcèlement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que les gens, du coup, quand ils sont harcelés, quand ils sont intimidés, qu'ils reçoivent des menaces de mort, de viol, eh bien, ils s'empêchent d'écrire certains articles. Et donc, on a là un phénomène d'autocensure à l'œuvre.
Le manuel explique, par exemple, comment rechercher les informations associées à son nom, son adresse ou son numéro de téléphone sur les moteurs de recherche. Le manuel est accessible gratuitement à l'adresse online@harassmentfieldmanual.pen.org.
bilaltahirou.org/fr en français, anglais et en espagnol. Bilal Tahirou, rédacteur en chef de PESA Check.
C'est un manuel qui a initialement été produit en 2018 qui permet de lutter contre le cyberharcèlement. Le harcèlement en ligne. Et donc ce manuel a été traduit en français et adapté au contexte africain, au contexte francophone.
Le projet a été produit en collaboration avec Code for Africa, organisation de citoyenneté numérique et de journalisme de données, et PESA Check, initiative de fact-checking.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a eu des effets néfastes sur la santé mentale, en particulier parmi les groupes vulnérables comme les réfugiés. Dans les camps de réfugiés du Kenya, des agences humanitaires tentent d'aider des personnes à faire face à l'anxiété et à la dépression. En marge de la Journée mondiale de la santé mentale marquée en début de semaine, Brenda Moulinia fait le point depuis Nairobi. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
La santé mentale de centaines de milliers de réfugiés au Kenya et ailleurs dans le monde a été mise à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. La maladie, en fait, a aggravé leur situation. Déjà accablés par le traumatisme de la fuite de leur pays d'origine, ils sont maintenant confrontés à l'impact de la pandémie sur leurs revenus et leur mode de vie. Un nouveau défi que tente de relever le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Eugene Biyun est porte-parole du HCR.
We witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19.
Nous avons remarqué que les conseils que nous prodiguons ont considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons mis en place plus de ressources pour tenir compte de ce genre de défis. Il y a plus de thérapeutes, plus de conseillers, notamment pour les visites à domicile et pour les lignes d'écoute. Cela pour permettre aux réfugiés d'avoir accès aux services de santé mentale et lutter contre le problème.
Le psychologue Albert Chumo, qui travaille avec des femmes et des enfants réfugiés, est d'avis que la pandémie a non seulement ravivé des événements traumatiques du passé, mais a également généré de nouveaux problèmes de santé mentale.
Certaines d'entre elles ont des familles, elles ont des enfants, elles se retirent de leur famille. Parfois, certaines diraient même qu'il ne sert à rien de vivre, mais elles sont désespérées.
Esperanza Mukawachina, 60 ans, réfugiée kényane d'origine rwandaise, reconstruit lentement sa vie et son entreprise après avoir subi les ravages à la fois économiques et mentaux de la pandémie. Elle confie que les 16 derniers mois ont été les plus difficiles de ses 20 années de vie de réfugiée au Kenya.
En raison de trop de stress et d'anxiété, vous pouvez contracter une maladie à laquelle vous ne vous attendiez pas. J'ai fait une hypertension artérielle parce que je m'inquiétais trop. En raison de trop de stress et d'anxiété, vous pouvez contracter une maladie à laquelle vous ne vous attendiez pas.
Des femmes comme Esperanza ont du soutien pour surmonter les pièges de la santé mentale par des organismes comme Refushi Kenya. La demande d'aide auprès de l'agence a été particulièrement élevée dans les régions urbaines. Refushi Kenya a dû réaménager son programme en raison de la pandémie. Mildred Kemunto est responsable à Refushi.
Nous offrons notre programme via WhatsApp qui permet d'accéder aux sessions. Nous tenons une session par mois pour chaque membre du groupe. Les sessions offertes par téléphone touchent la gestion du stress lié aux différents problèmes qui affectent les femmes.
Le HCR affirme que cette approche porte ses fruits dans les camps de réfugiés situés dans le nord du Kenya, où des conseils en matière de santé mentale sont également proposés virtuellement aux réfugiés dans le besoin.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production et de la rédaction qui ont permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Pour plus d'informations 24h/24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.